Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune, 93,8 MHz, ondes femmes, Radio Zone. Dans quelques instants, les informels, les nouvelles sur la Pleine Lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine. Radio Pleine Lune, 93,8 MHz, notre femme Radio Zone, nos nouvelles. Le 8 mars, Journée internationale de la femme a été fêtée avec une grande manifestation au Chiapas. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, plus de 5000 femmes indigènes zapatistes ont défilé dans les rues de San Cristobal, ville principale du Chiapas, au Mexique. Masquées avec des passe-montagnes, pieds nus le plus souvent, l'enfant sur le dos, elles sont venues de toutes les parties du Chiapas, de la forêt et de la montagne, pour exiger entre autres la démilitarisation de la région, militarisation qui pèse lourdement sur les femmes en augmentant entre autres les violences qui leur sont faites. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles descendaient à San Cristobal pour dire « on ne parle pas des indigènes comme peuple et encore moins des femmes indigènes. Elles n'apparaissent nulle part, dans aucune loi, car pour le gouvernement, elles n'existent pas. » Les femmes ont dénoncé très vigoureusement le manque de services dans les communautés, l'absence de cliniques, de médicaments, de soins pour guérir des maladies curables dont meurent toujours des femmes et des enfants. Elles ont dénoncé également le manque d'écoles, les maisons, de maisons bien faites, d'eau potable, de lumière. Depuis que les militaires sont entrés dans le Chiapas, disent-elles, nos maisons sont utilisées comme des bordels. Les rares salles de classe sont occupées par les soldats. Les terrains de sport sont utilisés pour stationner les tanks et les hélicoptères de ce mauvais gouvernement. Le subcommandante Marcos leur a adressé un message enregistré qu'elles ont écouté sur la place de la cathédrale de San Cristobal. Humiliées doublement comme femmes et comme travailleuses, les indigènes mexicaines sont également humiliées à cause de la couleur de leur peau et de leur langue, de leur culture et de leur passé. Un triple fardeau qui a poussé les femmes zapatistes à prendre les armes, un triple fardeau pour une triple rébellion. En Algérie, la journée du 8 mars a été célébrée par plusieurs manifestations, la plupart dans des salles. Entre autres, une grande réunion a été faite en présence de militantes d'autres pays. Des militantes iraniennes et soudanaises, entre autres, sont venues parler sur le thème des femmes martyrs, femmes de l'avenir. Des femmes de Genève étaient également invitées. Nous reviendrons à cette occasion. Toujours à l'occasion du 8 mars, l'imam de la grande mosquée d'Alger a d'ailleurs déclaré lors de son prêche que la femme, je cite, « est un être humain et non une femelle uniquement ». Le cheikh Ahmed Mekereb a ajouté que la femme, je cite toujours, « a le droit de travailler et de sortir dans les lieux publics et le devoir de s'habiller et marcher d'une manière pudique ». On n'arrête vraiment pas le progrès. Et toujours à l'occasion du 8 mars en France, l'Observatoire de la parité homme-femme réclame une révision de la Constitution. Gisèle Halimi et Roselyne Bachelot, anciennes députées et députées, ont demandé une modification de la Constitution pour assurer la parité de la représentation politique des hommes et des femmes. Les deux représentantes de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes ont choisi la Journée internationale des femmes pour tenir cette conférence de presse à l'Assemblée nationale qu'elles ont décrétée le temple du machisme. Au Japon, les trois violeurs américains d'Okinawa ont été condamnés des peines de 6 à 7 ans, peine peu sévère selon les normes japonaises. Cependant, les parents des GI crient néanmoins au procès politique. En tout cas, dans la population japonaise, l'hostilité anti-américaine ne cesse de monter. Les parents des trois GI accusés du viol d'une fille de 12 ans à Okinawa, qui ont fait le voyage des États-Unis pour le verdict, plutôt clément, crient au procès politique. Les trois violeurs écopent d'une peine de 6 à 7 ans de prison, alors que la justice japonaise place normalement la barre pour ce genre de crime au-dessus des 10 ans. La pression de la population à Okinawa a été telle que le procès a dû être à un moment ajourné. Selon les sondages, 70% des Japonais demandent une réduction des bases américaines et sont violemment opposés à la base américaine d'Okinawa. En France, Xavier Dor, chef d'un commando anti-avortement, a été condamné à une peine de prison ferme. C'est la première fois qu'une action de ce genre se terminera dans une véritable prison. Pour la première fois depuis l'apparition en France, en 1990, de commando anti-avortement, un responsable d'une de ces associations qui occupe régulièrement des centres hospitaliers où se pratiquent les avortements a été condamné à une peine de prison ferme. Le docteur Xavier Dor, dirigeant de l'organisation SOS Tout Petit, a été condamné à 8 mois de prison, dont 5 avec sursis, par la cour d'appel de Versailles. Il lui est également interdit de pénétrer dans les établissements accueillant des femmes enceintes et d'être en relation avec des associations anti-avortement. Xavier Dor est un multirécidiviste des opérations anti-avortement. Il a déjà fait l'objet de plus d'une demi-douzaine de condamnations, toutes assorties de sursis. Plus d'une centaine d'opérations ont été menées en France par ces militants, en général proches des catholiques intégristes et de l'extrême droite. La méthode est toujours la même, faire interruption dans le service gynécologique, s'enchaîner avec des antivols aux tables chirurgicales, détruire les dossiers médicaux, chanter des cantiques, menacer les patientes et le personnel hospitalier. Toujours en ce qui concerne les actions anti-avortement, une manifestation anti-avortement s'est affrontée à une manifestation pro-avortement, le tout avec la police. Cela a conduit à quelques blessés et plusieurs arrestations, puisque 7 personnes ont été arrêtées à l'issue d'une manifestation anti-avortement interdite par le préfet samedi dans le département des Yvelines, et à la manifestation à laquelle s'étaient mêlés des partisans de l'avortement. Toutes ces personnes ont été peu après libérées du commissariat où elles avaient été conduites par les forces de l'ordre. Un militant pro-avortement sera convoqué pour rébellion. Il est soupçonné d'avoir blessé à la jambe le directeur départemental des polices urbaines. Ce dernier a eu un doigt cassé dans les échauffourées qui se sont produites lors de la manifestation réunissant quelque 200 personnes devant l'hôpital André Mignot au Chesnay. 3 policiers ont été légèrement blessés lors de ces courts affrontements. Et toujours en ce qui concerne l'avortement, un groupe d'élus républicains et démocrates américains a déposé une proposition de loi pour supprimer des passages d'une nouvelle loi américaine sur les télécommunications. Celle-ci sanctionne la communication par le réseau Internet d'informations sur l'avortement. Cette disposition est passée inaperçue avant que le président Bill Clinton signe le texte le mois dernier. Imams et oulémas du Sénégal, du Cap-Vert et de Gambie, réunis à Dakar à l'occasion d'un colloque au début mars, ont affirmé que l'islam acceptait la planification familiale, reporte le quotidien Le Matin en Algérie. Une résolution qui devrait avoir une résonance dans toute l'Afrique, étant donné l'influence des imams sénégalais sur le continent. Les femmes sont-elles les premières concernées par la crise ? En tout cas, une chose est sûre, elles doivent de plus en plus affronter l'idéologie de tous ceux qui aimeraient tellement les renvoyer à leur foyer. L'espoir, en quelques petites phrases par-ci, par-là, donne bien une température de la situation des femmes dans le monde du travail. Quelques petits liens qui laissent présager un retour vers les anciennes normes. Ainsi, à Moscou, dernièrement, le président du Sénat a ouvert une séance et il a exprimé son contentement devant l'absence des rares élus des femmes. Elles sont restées dans leur cuisine, d'ailleurs, c'est leur place, a-t-il déclaré. Et puis l'année dernière, l'ex-premier ministre Édouard Balladur prévenait un parterre de journalistes, je cite, qu'il faudrait revoir à la baisse les chiffres du chômage en France, car si on les compare à ceux de l'Allemagne, où les femmes travaillent en moins grand nombre, ils deviennent alors tout à fait proches. Une manière un peu tardive de désigner les fautives, c'est à cause des femmes qu'il y a du chômage. Et puis Jacques Chirac, qui est bien sûr amené sa contribution en lançant un plaidoyer pour l'allocation parentale de libre choix, ouverte à toutes les femmes, qu'elles travaillent ou non. On remarque le subtil glissement, l'allocation parentale s'adresse bien sûr aux femmes. Sans compter la droite extrême, qui n'y va pas avec le dos du goupillon, dans son éloge de la préférence familiale, sa revalorisation des allocations pour les familles françaises et son projet de revenu matériel. En tout cas, le constat des chiffres est désolant. Le taux de chômage masculin est de 10,7% pour les hommes. Quant à celui des femmes, il atteint 14,6%. L'amorce d'embellie économique qu'on a observée dernièrement en France ne profite qu'aux hommes, puisque le chiffre de chômage des hommes a diminué, alors que celui des femmes continue à augmenter. Quant aux sorties de l'Agence pour la recherche d'emploi, elles progressent de 12,8% pour les hommes et seulement de 3% chez les femmes. En tout cas, une chose est sûre, les femmes sont de plus en plus licenciées pour des motifs réservés aux femmes. Les conseillers du salarié en France, qui siègent dans les instances, par exemple au Prud'homme, voient de plus en plus de cas de ce genre. On assiste à une recrudescence des licenciements de femmes pour des histoires de femmes, particulièrement visées les grossesses, les mamans absentes pour cause d'enfants malades, mais aussi les femmes d'un certain âge dans les métiers où le look est important. On cite par exemple le cas d'une jeune hôtesse d'accueil acculée à démissionner peu après son retour de congé maternité car l'employeur lui avait changé ses horaires de jour en jour et passé à des horaires de soirée, ce qui devenait impossible avec un enfant. Elle a tenu quelques mois, puis elle a craqué. Une autre, vendeuse dans un supermarché, s'en est sortie de justesse grâce à l'intervention répétée de l'inspection du travail. Là aussi, la direction l'inscrivait systématiquement dans la tranche des 17h, 22h et le samedi. Ce scénario est assez couramment utilisé pour écœurer les jeunes mamans quand elles ne sont pas licenciées purement et simplement à leur retour de congé maternité pour faute ou, comme l'a prétexté ce petit patron d'une entreprise de textile à sa secrétaire, parce qu'il l'avait remplacé par mieux et moins cher. Ils sont légion dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce ou les petites entreprises de services à procéder de la sorte. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui excellent ces temps-ci dans le licenciement des salariés avec ancienneté, n'ayant plus le look maison, encore un avatar réservé aux femmes. Ainsi Marie, qui a travaillé 25 ans dans la même boulangerie, jusqu'au jour où ses patrons l'ont accusée d'être sale, mal polie, mal fagotée, afin de la remplacer par une employée moins chère, c'est-à-dire plus jeune. L'histoire aurait bien sûr pu arriver à un homme, mais le prétexte invoqué aurait peut-être été différent. Ce que relève un avocat spécialisé en droit du travail, lorsqu'un employeur veut se débarrasser d'une femme, il n'emploie pas forcément les mêmes procédés. Il a plus facilement recours à la menace ou à la violence verbale, voire physique. Par exemple, le cas d'une secrétaire qui avait protesté, qui s'est fait traîner dehors par les cheveux. Quand elle a commencé à ne plus plaire à son boss marié qu'il avait pourtant copieusement dragué pendant des mois, Julie a reçu chez elle une lettre de licenciement l'accusant, elle, de harcèlement sexuel. Et pour terminer ce tableau un peu noir, une touche un peu plus claire, est-elle rose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en Norvège, pays de l'égalité des sexes, les femmes font carrière au plus haut poste de l'armée. Ainsi, on trouve une femme qui est la première femme au monde à commander un sous-marin et une femme pilote de F-16, avion militaire. Là aussi, est-ce un progrès ? I know. le Conseil des États a approuvé la ratification de la Convention de l'ONU contre les discriminations à l'égard des femmes. La Suisse doit donc ratifier cette convention qui élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Conseil des États en a décidé ainsi par 35 voix sans opposition. La Convention interdit toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines de la vie. Elle oblige les États signataires à prendre des mesures pour éviter les inégalités entre hommes et femmes, notamment au plan politique, économique et culturel. Trois réserves sont pourtant inscrites par le gouvernement concernant la législation militaire, le nom de famille et les régimes matrimoniaux. La question du remboursement des échographies par l'assurance maladie n'est pas définitivement réglée. L'échographie, c'est cet examen que font les femmes enceintes pour voir si leur bébé, si le fœtus se développe bien. La conseillère fédérale Ruth Dreyfus n'exclut pas une modification de la loi sur l'assurance maladie. Depuis janvier, la loi ne prévoit un remboursement que pour les grossesses à risque. L'échographie est une méthode reconnue, mais elle est contestée en tant qu'examen de routine, a déclaré la chef du département fédéral de l'Intérieur. Une commission réexamine actuellement le problème. Avant l'entrée en vigueur de la LAMA, l'assurance remboursait 4 examens de contrôle. La nouvelle législation prévoit la prise en charge de 7 examens de ce type en cas de grossesse normale et de tous les examens médicalement nécessaires en cas de grossesse à risque. Et pour terminer, notre chapeau du cochon spécial 8 mars. Comme vous le savez, le 8 mars est une journée pour célébrer la lutte des femmes. Celles qui firent grève, par exemple à Chicago, au début du siècle, qui périrent dans l'incendie de leur usine. Ou celles encore qui, réunies dans les 3e internationales, luttaient pour le droit des femmes. Depuis 1 ou 2 ans, le 8 mars s'officialise. En France, par exemple, et en Italie, il est devenu fête officielle. Et du coup, il se civilise, si on peut dire. En tout cas, il se fait récupérer par certains hommes pour qui les femmes doivent toujours rester à la même place. Donc, chapeau du cochon spécial 8 mars pour ce propriétaire de bar en Italie à Mantoue qui a organisé une vente aux enchères très spéciale. 130 hommes ont été achetés par quelques 200 femmes qui les ont accueillis à leur table en les invitant à déjeuner. Une belle manière de montrer leur lutte. En échange de leur gracieuse participation, on leur offrait les consommations. Les enchères ont débuté par des sommes très modiques pour arriver jusqu'à des sommes assez importantes de plus de 600 000 lires. C'est donc ce propriétaire du bar qui a organisé cette vente. Chapeau pour lui et chapeau aussi pour le président Jacques Chirac qui, à l'occasion du 8 mars, a invité un panel de femmes à déjeuner dans une péniche très luxueuse. Étaient invités des chefs d'entreprise, des femmes artistes, des femmes de tous bords et une délégation de mères de familles nombreuses. Voilà aussi un grand exemple de lutte des femmes. Si Chirac ne veut pas ressembler à De Gaulle, en tout cas, il ressemble de plus en plus à Pétain. C'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, quelques petits rendez-vous. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur. لك يا أخوي أضلعيك Premier rendez-vous, donc, suite de Pékin, la conférence internationale des femmes de Pékin continue à faire réfléchir des gens. Et le mercredi 17 avril, un groupe de femmes qui se sont rendues à Pékin vous invite à la paroisse protestante de la Servette, 55 Avenue 20, pour parler de cette quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin. Nous sommes toutes concernées. Les résultats, c'est Maryse Durer et Nicole Fischer qui invitent à faire le point sur la situation et à s'associer à leur désir de vivre et d'agir sur la lancée de Pékin. C'est donc le mercredi 17 avril à 20h15 à la paroisse protestante de la Servette, 55 Avenue 20. Voilà, donc... Autre rendez-vous, plus lointain, mais notez-le déjà, le 27 mars, une soirée débat sur le thème « Violence conjugale, l'identifier pour l'enrayer ». Une soirée débat présentée et animée par Michèle Gigandet-Baïtard, travailleuse sociale à Solidarité Femmes. Ça se passe dans les locaux de F Information, c'est 19 rue de la Servette, au premier étage, mercredi 27 mars à 20h15. Et puis, je vous termine par un concert. Ce sera un concert des plus intéressants, puisque c'est de la musique, l'ensemble 415, que nous connaissons bien. Musique baroque, dirigée par la violoniste Chiara Banchini, qui présentera les œuvres d'une compositrice, cantatrice, violoniste. Il s'agit de Maddalena Lombardini-Sirène, qui vécut de 1745 à 1818. Ses œuvres seront donc interprétées par l'ensemble 415, qui pour une fois sera tout au féminin. Six musiciennes présenteront cette œuvre de cette compositrice qui sera présentée et racontée par Laurence Montandon. Donc c'est vraiment un concert tout à fait important, tout à fait rare, et il aura lieu le dimanche 24 mars à 17h. C'est au Temple de la Fusterie à Genève. Voilà, la pleine lune, les informels de la pleine lune vous disent au revoir. Je vous laisse en compagnie du cœur de Marjolaine. Il est tout beau, tout gros. Il vous ouvre ses portes pour vous raconter tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a aimé cette semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.